monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du jeudi 28 mars 2024. Au Burkina Faso, prolongation d'un an du régime de mobilisation générale contre le terrorisme. Au Nigeria, les 137 élèves libérés ont retrouvé leur famille. Au Togo, l'opposition craint que la nouvelle loi fondamentale qui instaure un régime parlementaire laisse la voie libre à la prolongation de la présidence de Faure Gnassingbé.
Et cette formule vise à garantir la pérennité de l'exercice du pouvoir par la même famille politique, à savoir le RPT du temps du père et l'UNIR du temps du fils.
Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, donnera dans la partie magazine son point de vue sur la question. En Haïti, la violence des gangs a déjà fait plus de 1500 morts en 2024 selon l'ONU. Ici aux États-Unis, la Maison-Blanche a annoncé aujourd'hui une série de mesures visant à mieux réguler l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les administrations publiques. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Et c'est au Sénégal que nous commençons. Après la proclamation des résultats finaux provisoires de la présidentielle mercredi, c'est désormais au tour du Conseil constitutionnel d'examiner d'éventuels recours de candidats avant éventuellement de déclarer Bassirou Diomaye Faye définitivement vainqueur ou d'annuler l'élection, hypothèse hautement invraisemblable. D'après la commission électorale, l'opposant Diomaye Faye l'a emporté dès le premier tour dimanche avec 54,28% des voix, loin devant le candidat du pouvoir, Amadou Ba, crédité de 35,79%. Les candidats ont 72 heures pour saisir le constitutionnel, dit la Constitution, mais le Conseil a décidé de réduire les délais, probablement pour faire en sorte qu'une passation ait lieu avant le 2 avril, date officielle de fin du mandat du président sortant, Macky Sall. Le Conseil a donné à tout contestataire jusqu'à ce jeudi minuit pour se manifester. Le Burkina Faso a décidé de prolonger d'un an la mobilisation générale pour consolider les acquis et lutter contre les groupes djihadistes. Les détails avec Nani Talani.
Le gouvernement du Burkina Faso, au regard de la situation sécuritaire qui prévaut sur le territoire national, a décrété la mobilisation générale pour un an par un décret du 19 avril 2023, stipule le texte. Selon les autorités, la prolongation permet de continuer la mobilisation des ressources, de consolider les acquis, de restaurer la sécurité, d'assurer la protection des populations et de leurs biens contre la menace et les actions terroristes et de poursuivre la lutte contre le terrorisme dans le pays. Les Burkinabés âgés d'au moins 18 ans seront appelés à s'enrôler selon les besoins exprimés par les autorités compétentes. Le texte signé par le capitaine Traoré expire le 18 avril. Il stipule aussi que les droits et les libertés individuelles et collectives garantis par les lois et règlements peuvent, dans certains cas, être restreints ou limités. Plusieurs personnalités burkinabées ayant exprimé une voix discordante de celle du régime ont récemment été arrêtés ou enlevés.
Au Nigeria, les 137 élèves libérés ont retrouvé leur famille après avoir bénéficié de soins, selon une annonce des autorités locales. Davantage avec Alexandrine Ologon.
Les enfants, originaires du secteur de Kuriga dans le nord-ouest du Nigeria, ont fait l'objet d'examens médicaux dans la capitale régionale Kaduna, où ils ont pu retrouver leurs proches. Six d'entre eux ont dû être hospitalisés pour soigner des blessures subies durant la captivité. Un adulte enlevé avec le groupe d'enfants a trouvé la mort, selon les autorités. Le 7 mars, des dizaines d'hommes armés avaient fait irruption dans une école de Kuriga, emmenant de force les élèves et cet adulte. Les premières estimations avaient fait état de plus de 280 élèves kidnappés avant que le bilan ne soit ramené à 137 enfants, 76 filles et 61 garçons. Le Nigeria fait face à une recrudescence des kidnappings contre rançon. Officiellement, le paiement de rançon est interdit depuis une loi adoptée en 2022 et les autorités nient tout versement quand les otages sont libérés à la suite de négociations avec les ravisseurs.
En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma est exclu des élections générales prévues le 29 mai, a annoncé aujourd'hui la commission électorale lors d'une conférence de presse. Dans le cas de l'ancien président Zuma, nous avons reçu une objection qui a été retenue, a déclaré le président de la commission, Mosoto Mopia, sans donner de précision sur les raisons motivant l'exclusion qui peut encore faire l'objet d'un appel d'ici le 2 avril. La liste électorale définitive doit être présentée dans une quinzaine de jours.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité hors du continent, la Cour internationale de justice a ordonné aujourd'hui à Israël de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre la distribution sans délai d'une aide alimentaire de base aux Palestiniens de la bande de Gaza. Les magistrats de la Cour, de la CIG, se sont prononcés donc à l'unanimité. La CIG a souligné que les conditions de vie des habitants de l'enclave palestinienne se détérioraient et que la famine s'y répandait. Situation alarmante en Haïti, l'ONU lance une nouvelle alerte de et parle de 1554 tués au cours des trois premiers mois de 2024. L'organisation déplore des frontières poreuses qui facilitent l'approvisionnement des gangs en armes et munitions. Le point avec Rosine Monezero.
Il est choquant de constater qu'en dépit de l'horreur de la situation sur le terrain, les armes continuent d'affluer. J'appelle à une mise en œuvre plus efficace de l'embargo sur les armes, a déclaré le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, dans la présentation d'un nouveau rapport. Le haut commissariat note qu'en dépit de l'embargo sur les armes, les gangs disposent souvent d'une puissance de feu supérieure à celle de la police nationale haïtienne. Le rapport indique que les gangs continuent d'utiliser la violence sexuelle pour brutaliser et contrôler la population, mais aussi de recruter et d'abuser des enfants, dont certains ont été tués alors qu'ils tentaient de quitter les rangs de ces groupes. Parallèlement, des brigades d'autodéfense ont continué à apparaître et à se faire justice elles-mêmes. Des facteurs structurels et conjoncturaux ont conduit Haïti à une situation cataclysmique, caractérisée par une profonde instabilité politique et des institutions extrêmement fragiles, souligne le rapport de l'ONU.
La Maison-Blanche a annoncé aujourd'hui une série de mesures visant à mieux réguler l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les administrations publiques et à identifier et gérer les risques potentiels tout en assurant la transparence des usages. Les précisions de John Hindon.
Il s'agit d'une nouvelle série de normes élaborées par la Maison-Blanche et visant à protéger la sécurité des données des Américains et à s'assurer que ceux-ci savent de quelle manière leur gouvernement intègre l'intelligence artificielle, a précisé la vice-présidente Kamala Harris lors d'une conférence de presse en ligne. Les administrations devront mettre en place une supervision interne avec la désignation d'un responsable de l'intelligence artificielle disposant de l'expérience, de l'expertise et de l'autorité pour s'assurer du bon usage des outils employés, a ajouté Kamala Harris. Le président Joe Biden a signé en octobre un décret destiné à une meilleure prise en compte des risques induits par le développement de l'intelligence artificielle. En dehors des usages liés aux administrations, la présidence américaine ne dispose toutefois que d'une marge de manœuvre limitée. Une véritable législation en la matière nécessiterait un vote du Congrès qui apparaît difficile à obtenir en cette année d'élection.
Le Kremlin a souligné ce jeudi la nécessité d'un silence absolu sur le sort du journaliste américain du Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, arrêté le 29 mars 2023 pour espionnage et incarcéré depuis dans une prison proche de Moscou. L'administration américaine, le reporter lui-même et son journal nient les allégations portées contre lui. Moscou affirme que le correspondant du Wall Street Journal en Russie a été interpellé en flagrant délit lors d'un reportage dans l'Oural. Ivan Gershkovich, âgé de 32 ans, est devenu le premier journaliste américain à être détenu pour espionnage en Russie depuis la guerre froide. La Russie a dit aujourd'hui avoir des preuves que les auteurs de l'attaque qui a fait plus de 140 morts dans une salle de concert de la banlieue de Moscou étaient liés à des nationalistes ukrainiens. Dans un communiqué, les enquêteurs affirment que les suspects de nationalité tadjik ont reçu d'importantes sommes d'argent liquide et de crypto-monnaies en provenance d'Ukraine. Kiev a catégoriquement nié toute implication dans cette attaque, la plus meurtrière perpétrée en Russie depuis 20 ans, qui a été revendiquée par la branche afghane du groupe État islamique. Les accusations de Moscou ont été qualifiées par Washington de propagande absurde. Et puis Sam Bankman-Fried, superstar déchu des crypto-monnaies, a été condamné aujourd'hui à 25 ans de prison pour l'une des pires fraudes financières de l'histoire récente, après que le juge a considéré notamment qu'il avait commis plusieurs parjures à la barre. Il avait déjà été reconnu coupable par un jury en novembre des 7 chefs d'accusation retenus contre lui lors d'un procès à l'issue duquel le procureur de New York, Damian Williams, avait réclamé entre 40 et 50 ans de réclusion. Lors de l'audience devant un tribunal de New York ce jeudi, le juge fédéral Lewis Kaplan n'a pas mâché ses mots, relevant que le jeune homme n'avait jamais eu un mot de remords pour avoir commis un crime terrible. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Michel Joseph.
Le Nigeria annonce qu'il n'accordera de nouvelles licences minières qu'aux entreprises qui présentent un plan sur la manière dont les minéraux seront traités localement dans le cadre de nouvelles directives en cours d'élaboration. Pour stimuler l'investissement, le pays a pris des mesures incitatives pour les investisseurs, dont des exonérations fiscales pour l'importation d'équipements miniers. La Zambie a conclu un accord historique avec ses créanciers privés, détenteurs de 3,5 milliards de dollars d'euros obligations, levant un obstacle majeur dans les négociations sur la restructuration de sa dette colossale, a annoncé lundi le président Hakainde Hichilema. Avec cet accord, Harare devrait enfin sortir de plus de 3 ans de défaut de paiement. La Chine, deuxième économie mondiale, entend être le moteur de la reprise économique mondiale cette année en ouvrant plus largement ses marchés aux investisseurs étrangers et en promouvant une croissance de qualité, a déclaré jeudi Zhao Leji, le plus haut législateur du pays. Les importations et exportations de marchandises de Pékin devraient dépasser 32 000 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années.
Place maintenant au sport avec Nani Kalani. Bonsoir Nani.
Bonsoir Jean-Roger.
La CAF a annoncé les dates des finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération de la CAF pour la saison 2023-2024.
Selon le calendrier, le match aller de la Coupe de la Confédération se jouera le dimanche 12 mai. Le match retour sera disputé le week-end suivant, soit le dimanche 19 mai. La finale aller de la Ligue des Champions de la CAF aura lieu le samedi 18 mai. Le match retour aura lieu le samedi 25 mai.
Un mot sur ce derby égyptien qui est à l'affiche des quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF.
Oui, le Zamalek SC affrontera le futur SC dans un match aller-retour prévu le 31 mars et le 7 avril. Les deux géants égyptiens sont en quête d'une deuxième coupe de cette confédération. Le dernier titre continental du Zamalek remonte à 4 ans lorsqu'il a remporté la Supercoupe de la CAF en attendant de soulever la Coupe de la Confédération en 2020. Le Zamalek, alias White Knight, est l'un des clubs favoris de cette saison après avoir terminé sa campagne de groupe avec le plus grand nombre de points et aucune défaite. Mais il devra d'abord s'imposer face à l'ambitieux futur FC, tout aussi capable de créer la surprise dans le derby aller-retour.
Pour terminer, récapitulatif des matchs d'hier en NBA.
Avec un Kevin Durant rayonnant, les Phoenix Suns ont pris le meilleur sur les champions en titre Denver Nuggets 104-97 hier en NBA. Phoenix, 7e, reste dans la course au play-off en embuscade derrière Dallas. Denver conserve la tête en profitant de la défaite d'Oklahoma sur son parquet face à Houston. Les Houston Rockets ont remporté leur 10e rencontre d'affilée face à Oklahoma, 132-126. Houston, 11e, peut ainsi continuer à mettre sous pression les Warriors, 10e, vainqueur dans le même temps à Orlando, 111-93, pour la dernière place en play-in. Les Los Angeles Lakers se sont aussi imposés en déplacement à Memphis, 136-124, avec un triple-double à la clé pour LeBron James, absent lors du match précédent face aux Bucks. Les Lakers, qui en sont à 5 victoires de rang, sont 9e. Memphis, 13e, est hors de course. Enfin, soirée victorieuse pour Rudy Gobert avec Minnesota face à Detroit, 106-91, mais aussi pour Victor Wembanyama avec les Spurs, dont l'Utah, 118-111.
Page de sport VOA Afrique signée Nani Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, depuis le 26 mars, qui était censé marquer la fin de la transition, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander aux autorités de proposer au plus vite un chronogramme afin de sortir de cette période transitoire. Associations et partis politiques haussent le ton. Reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko.
Après le communiqué de la Synergie d'action pour le Mali et le parti ADEMA-PASJ, le Parti pour la Renaissance nationale, PARENA, a aussi fait un communiqué pour rappeler la fin de la période transitoire et inviter les autorités à donner de nouvelles dates pour les élections. Alou Diabaté, porte-parole du président du PARENA.
Pour demander aux autorités de la transition de créer un cadre politique apaisé pour de manière consensuelle pour fixer un calendrier de retour à l'ordre constitutionnel. Libérer les prisonniers d'opinion, permettre le retour des exilés politiques.
Président du Parti africain pour l'intégration et la souveraineté, Boubacar Bokoum estime pour sa part que les conditions pour organiser une élection ne sont pas réunies.
Il est certain que les élections pour nous aujourd'hui ne sont pas une priorité dès lors que effectivement nous savons que notre pays traverse une situation très difficile et sachant que les causes profondes de la crise sont foncièrement des raisons sécuritaires.
L'insécurité, le manque de concertation avec les partis politiques sont entre autres arguments avancés par le politologue Paul Oula pour expliquer cette situation.
Dans ces derniers mois, le Mali a procédé à des levées de fonds sur le marché de l'UMOA à des taux extrêmement élevés. Cela sous-entend que les conditions financières aujourd'hui sont très difficiles. La deuxième raison est que aujourd'hui, le gouvernement n'a pas quand même su réunir la classe politique pour essayer de fixer une date butoir concernant l'organisation des élections après le report Sinedi.
Les partis et organisations qui pressent les autorités d'organiser les élections mettent en avant la situation de vide juridique dans lequel le pays est depuis le 26 mars. Une thèse confortée par le professeur Kissima Gakou, doyen de la faculté de droit privé de l'université de Bamako.
La situation du pays, chacun connaît, c'est un régime d'exception, mais ça doit finir. Et puisque ça doit finir, les partis politiques sont tout à fait fondés aujourd'hui à donner de la voix dans le sens justement de clarifier la suite.
Ce jeudi, des organisations ont déposé une requête auprès de la Cour constitutionnelle afin qu'elle constate un vide institutionnel au Mali. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
La tension monte au Togo où les députés ont adopté une nouvelle constitution instaurant un régime parlementaire donnant les pleins pouvoirs à un président de conseil des ministres qui sera élu par l'Assemblée pour 6 ans. Le président de la République ne disposera que d'un pouvoir symbolique, sera également élu par le Parlement pour un mandat unique de 6 ans. Cette réforme est critiquée par une partie de l'opposition qui évoque un coup d'État constitutionnel à moins de 3 semaines des élections législatives et régionales prévues le 20 avril. Pour une analyse, Nathalie Bage a posé quelques questions au professeur Théodore Olo, constitutionnaliste et ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin.
Un parlement monocolore n'a aucune légitimité non seulement à réviser la constitution, mais aussi à adopter une nouvelle constitution. Parce que le changement de régime semi-présidentiel à un régime parlementaire participe de l'adoption d'une nouvelle constitution et d'une révision. Et cette formule vise à garantir la pérennité de l'exercice du pouvoir par la même famille politique, à savoir le RPT du temps du père et l'UNIR du temps du fils. Ceux qui gouvernent le Togo depuis 1967 participent de la même vision politique puisque c'est la continuité du même parti politique, c'est les mêmes hommes ou leurs descendants qui continuent à gérer le pays. Donc on ne me dise pas que c'est la forme du régime qui permettra le développement.
Est-ce que selon vous, il aurait fallu, par exemple, organiser un référendum pour demander l'avis de la population?
La constitution est le statut de l'État. Ce qui veut dire c'est le pacte social de vivre ensemble. Et par conséquent, lorsqu'il s'agit d'adopter une nouvelle constitution avec un parlement qui n'est pas représentatif du peuple, c'est le référendum qui est la voie la plus indiquée. Déjà pour la révision. Et quand il s'agit d'adopter une nouvelle constitution, comme c'est un nouveau pacte qui sera scellé, il vaut mieux aller directement au référendum.
Est-ce que vous pourriez citer un des cas particuliers de régime parlementaire en Afrique, hein, sachant qu'il y en a qui sont liés à un régime présidentiel et non? On a le cas de l'Afrique du Sud, du Botswana, et on a Maurice, on a l'Éthiopie. Des cas, en fait, qui, selon vous, fonctionneraient bien.
Il y a des pays où la démocratie fonctionne, par exemple l'île Maurice, qui pratique le régime parlementaire. L'Afrique du Sud, puisque le président n'est pas élu au suffrage universel direct, c'est au niveau du parlement que ceci intervient. Cela donne de bons résultats parce qu'il y a des hommes qui ont conscience qu'ils sont là pour servir le peuple et ne pas se servir. Donc c'est d'abord une certaine culture politique, une certaine conception de la mission que l'on a en tant que gouvernement. Aujourd'hui, avec la nouvelle constitution, l'essentiel du pouvoir ou l'ensemble du pouvoir est concentré entre les mains du Premier ministre, qui est d'abord le chef du gouvernement qui détermine et met en œuvre la politique de l'État, mais encore il est le chef de la majorité ou de la coalition parlementaire qui contrôle le Parlement, ce qui veut dire qu'il a entre ses mains et le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Alors que le régime présidentiel, comme c'est le cas aux États-Unis aujourd'hui, peut se traduire s'il y a une culture démocratique, que le président soit de notre bord politique, tel qu'aux États-Unis, avec le président Joe Biden, qui est démocrate, et le Parlement, la Chambre des représentants aux États-Unis, qui est dominée par les républicains. Ronald Reagan, quand il était président, il est républicain, mais le Congrès était à majorité démocrate. Ce qui fait qu'il faut négocier et trouver un compromis qui se rapproche de l'intérêt général. Tant qu'il n'y a pas cette culture démocratique, tant qu'il n'y a pas cette culture politique, que vous ayez un régime parlementaire ou un régime présidentiel, vous allez vivre les mêmes difficultés que nous connaissons en Afrique.
C'était le constitutionnaliste Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, la situation humanitaire dans la province de l'Ituri devient de plus en plus critique, avec plus de 1,6 million de personnes déplacées dans la province à la fin de 2023. La communauté internationale doit cesser de négliger les populations de l'Ituri et prendre des mesures urgentes pour les aider à jeter les bases d'un avenir pacifique, exhorte le Conseil norvégien pour les réfugiés. Ousmane Drabo, porte-parole régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Conseil norvégien pour les réfugiés, a été joint à Dakar par Antoine Roger Bolamba.
Alors, en Ituri, en RDC, en République démocratique du Congo, la situation humanitaire est assez alarmante et même catastrophique au regard du nombre de déplacés internes dans la région, les attaques qui se poursuivent contre les camps de déplacés internes, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'éducation, de la sécurité alimentaire, tous les voyants sont pratiquement au rouge. Et pendant que la situation humanitaire se dégrade de jour en jour en Ituri, on voit que l'attention est plus portée sur le nord, ce qui est très juste. Mais nous demandons qu'il y ait aussi un regard très attentionné sur l'Ituri, au même titre que le Nord Kivu à Goma et dans d'autres localités où l'insécurité sévit en République démocratique du Congo.
Et de votre côté, que fait votre organisation par rapport à cette situation?
NRC, à l'image de la plupart des acteurs humanitaires dans l'Ituri, essaie d'apporter des réponses aux besoins urgents, que ce soit en termes d'éducation, que ce soit en termes d'abri. NRC offre des abris aux déplacés internes, par exemple. NRC participe à la construction de points d'eau pour soulager un peu les problèmes d'eau auxquels sont confrontés les déplacés internes. NRC participe aussi à la mise en place de structures éducatives assez solides en formant par exemple des enseignants communautaires pour répondre un peu à l'urgence de l'éducation des enfants qui sont laissés à eux-mêmes suite à différentes attaques. Des écoles sont fermées, aussi vu la précarité, aussi la pauvreté des parents dans cette zone. Beaucoup d'élèves n'arrivent pas à partir à l'école et NRC essaie d'apporter justement des réponses en formant des enseignants communautaires, mais aussi en essayant d'apporter des enseignements psychomoteurs contre les traumatismes que ces enfants des déplacés internes ont pu vivre lors des des différentes attaques dans les villages.
Et comment appréciez-vous l'attitude du gouvernement congolais par rapport face à cette situation?
Simplement, ce que nous demandons, que ce soit aux autorités ou à l'endroit de la communauté internationale, c'est d'apporter son aide, que ce soit dans le Nord Kivu, dans l'Ituri, pour abréger la souffrance des déplacés internes et des populations vulnérables dans ces deux provinces qui sont les plus affectées en matière de conflit, mais aussi en prenant des initiatives pour pouvoir apporter des réponses concrètes en termes de cohésion sociale, en termes de vivre ensemble dans l'Ituri. Comme vous le savez, l'une des causes du conflit dans cette région, c'est que les populations hautes et même les déplacés internes se disputent un peu des ressources qui sont assez limitées dans la région et qui sont source de conflits communautaires. Et donc, nous demandons à la communauté internationale d'apporter des réponses aux besoins urgents, que ce soit en termes d'eau, en termes de nourriture, en termes d'abri, mais aussi à participer aux différentes initiatives locales et qui vise à renforcer le ciment de cohésion sociale et du vivre ensemble entre les communautés dans l'Ituri, mais aussi dans le Nord Kivu.
C'était Ousmane Drabo, porte-parole régional Afrique de l'Ouest et du Centre du Conseil norvégien pour les réfugiés.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
La violence et l'instabilité en Haïti constituent une menace pour les citoyens du pays et pour les journalistes qui rendent compte au péril de leur vie de l'actualité. Voyons cela dans ce reportage de Robin Guess, un récit de John Lyndon.
La peur, la violence et l'anarchie se répandent en Haïti. Des gangs règnent sur la capitale et les infrastructures clés, y compris certains ports, et bloquent la distribution de nourriture. Les journalistes qui couvrent leurs actions prennent de grands risques. Ces dangers ne sont pas nouveaux pour les journalistes haïtiens. Ayant survécu de justesse à un attentat en 2022, Robertson Alphonse, responsable de l'information nationale au journal Le Nouvelliste, s'est réfugié aux États-Unis.
J'espère que personne ne vivra cela. Mais il est fort possible que nous ayons des journalistes haïtiens qui doivent se déplacer ou se cacher ou fuir le pays pour leur propre sécurité.
Alphonse couvre encore Haïti, mais en sécurité depuis les États-Unis, où il est chercheur à l'Université du Michigan. Au cours des deux dernières années, des journalistes ont été tués, kidnappés et agressés en Haïti. Les organismes de surveillance et des médias affirment qu'il s'agit de l'un des pays les plus dangereux au monde pour les journalistes. Arthur Romeu est responsable de l'Amérique latine et de la Caraïbe pour Reporters sans frontières.
Les journalistes sont en quelque sorte pris entre les feux croisés de la violence des gangs et de la crise institutionnelle, et ils sont aussi pris pour cible lorsqu'ils essaient de couvrir ces événements.
Les journalistes sur le terrain craignent que la situation n'empire. Ils disent qu'il n'y a aucun moyen d'éviter l'une des missions les plus périlleuses, couvrir les gangs. Hans Chéri, journaliste au Haitian Times.
Ce sont eux qui font du mal au pays. Et si vous leur dites quelque chose de déplacé, vous pourriez être leur prochaine cible. Il est presque hors de question de devoir parler aux gangs. Mais certaines personnes pourraient ne pas être d'accord avec moi. Cela peut aussi devenir très dangereux.
Les gangs ne sont pas la seule menace. Sandra Lemaire, chef du service créole de la VOA, se souvient d'un incident impliquant l'un de ses reporters en Haïti.
Il a été menacé par un agent de la police nationale avec une arme. Il lui a dit de ne pas publier cette information car elle nous donne une mauvaise image.
Sandra Lemaire dit qu'elle prend constamment des nouvelles de son équipe sur le terrain pour s'assurer qu'elle est en sécurité. Une fois encore, Sandra Lemaire, chef du service créole de la VOA.
Ma plus grande crainte est qu'ils soient tués pendant le reportage.
Vu l'influence des gangs et la lenteur des progrès dans la formation d'un nouveau gouvernement de transition, les analystes des médias craignent pour la sécurité des journalistes sur le terrain en Haïti.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram. pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.